c'est une joie pour ma femme et moi-même d'être parmi vous ce matin, mais en plus avec notre petite fille Mathilde, qui a voulu nous accompagner, notre le chemin à Londres. Voilà, on a dû la réveiller pour se lever à Londres. Pour venir dans la maison de l'Éternel, c'est quand même une prouesse. Les jeunes ne sont pas autant, et j'allais dire justement, j'ai fait un petit calcul, même si on dit qu'il n'y a pas de petite église, il y a des églises nombreuses ou peu nombreuses. Et je remarque ici, peut-être un tiers des participants sont des jeunes. Alors bravo,
je suis sûr que
dans nos grandes églises, on n'est pas au moins doute si grand pourcentage de jeunes. Alors félicitations à vous. J'aimerais lire un texte dans Ésaïe, au chapitre 61, versets 10 et 11. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. J'aimerais lire un autre texte, un autre verset. Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Un autre, dans Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. Le thème que j'ai choisi pour ce matin, je ne sais pas s'il est approprié, mais c'est thème de la joie, comme l'apôtre Paul nous invite. Soyez toujours joyeux, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, donc comme Philippiens 4. Et cette semaine, on est un peu enclin à nous réjouir des circonstances, de ce qui se passe. On est un peu bousculé, on est un peu déstabilisé devant cette violence. Et pourtant, l'apôtre Paul nous invite à être toujours joyeux. Alors j'aimerais que nous voyons un peu ce toujours joyeux, qu'est-ce qu'il comporte, et si c'est vraiment possible d'être toujours joyeux, en toutes circonstances. Vous connaissez le métier de clown, ceux qui sont censés nous faire rire. Ils sont payés pour cela même. Mais il s'avère que derrière ce masque de la joie, ils sont tristes. L'été passé, vous connaissez le clown bien connu, qui s'en est allé. Sans doute était-il malheureux derrière son masque de façade. Il n'avait plus la joie, il a voulu en finir. Spielberg résumait ainsi la carrière de Robin Williams, qui s'est suicidé. C'était Robin était un éclair de génie comique. De nous voir rire était le coup de fouet qui le faisait avancer. Il faisait rire. L'assistance, le public, ses amis, pour ne pas sombrer. Quel triste constat pour un homme qui aimait faire rire. Et il fallait qu'il fasse rire pour qu'il se sente un peu mieux. Joie éphémère, sans doute, qui n'apportait rien de sûr. Que mettons-nous derrière ce mot de joie, ce thème-là? Le dictionnaire dit ceci. C'est un sentiment de satisfaction ou de bonheur éprouvé par une personne dont une aspiration ou un désir personnel a été satisfait. Ou encore, manifestation de gaieté et de bonne humeur. Ça, on comprend, c'est vrai. Thème de la joie, quand tout va bien pour nous, quand tout roule, hein, on a du succès dans tous les domaines, alors on est heureux, on est dans la joie. Mais la joie à laquelle Paul appelle la communauté des Thessaloniques et nous ce matin n'est ni un sentiment de gaieté, ni une émotion liée à la satisfaction d'un désir. C'est beaucoup plus profond que cela. Et ça ne dépend pas, j'allais dire, des circonstances. Pour comprendre la joie véritable à laquelle Paul nous invite, voyons les circonstances dans lesquelles Paul a écrit cette lettre aux Thessaloniciens. Dans Actes, au chapitre 17, Paul vient de fonder cette église. Mais malheureusement, quelques semaines après, il y a eu la persécution, on a cherché à le combattre, et il a dû fuir. Il a laissé une jeune église, peut-être livrée à elle-même, hein, qui vient de se convertir et qui vient de se fonder. Il est inquiet. Et au chapitre 2, il fait supposer qu'il y a une espèce de persécution. Et Paul, pour ne pas laisser ces jeunes chrétiens tout seuls, il a envoyé Timothée pour les encourager. Voir un peu comment ça allait, peut-être résoudre quelques points de doctrine. Mais il a eu ce souci-là, et parfois on se demande, c'est sûr qu'il va y avoir un souci de formation dans cette église. Ils n'ont pas eu tout ce qu'ils avaient besoin. À son retour, Timothée a transmis à Paul un peu le souci de cette jeune église. Cette communauté est affrontée à une question peut-être qu'on peut se poser pour tout jeune chrétien. Comment se fait-il ceux qui sont morts avant nous puis qui n'ont pas connu le salut en Christ? Qu'en est-il d'eux? Sont-ils sauvés? Ceux qui sont morts avant le retour de Jésus, qu'est-ce qu'il en est? Et Paul a dû répondre à leur interrogation. Il rappelle que l'espérance chrétienne de la résurrection, cette espérance, c'est celle de demeurer en communion avec le Seigneur, de ne pas lâcher ce lien qui nous unit avec Christ, avoir cette certitude que quoi qu'il arrive dans les circonstances, Dieu a promis d'être là. Et dans l'attente de ce jour glorieux où Christ reviendra, il invite la communauté de Thessalonique à s'édifier, comme nous l'avons lu tout à l'heure, à se réconforter mutuellement. Consolez-vous les uns les autres en attendant. Ça, c'est une discipline, une discipline que l'Église doit apprendre. S'entourer les uns les autres, se consoler. Parce que bien sûr, on n'a pas toujours envie de se réjouir, on n'est pas toujours dans la joie. Il y a des situations où on a envie de pleurer. Et alors l'Église doit être là pour encourager et ne pas perdre de vue ce que Christ a acquis pour nous à la croix. Par expérience, Paul sait que suivre Christ conduit inévitablement à l'opposition, à affronter l'ennemi, ceux qui s'opposent à l'œuvre de Christ. Et cette semaine, on a encore vu les exactions. Devant les épreuves, ou face à la séparation, il y a le deuil, il y a la tristesse, la détresse. Lorsqu'on est confronté à un choix difficile, oui, un choix s'impose. Lequel? Soit on renonce, on abandonne, on baisse les bras, ou alors on s'accroche fermement aux promesses de Dieu. C'est cela la foi. C'est vraiment croire contre toute espérance, s'accrocher à ces promesses qui ne faibliront pas. Croire malgré l'épreuve. Croire en l'amour de Dieu que rien ne pourra changer, ni nous séparer. En témoignant de son espérance, Paul donne quelques exhortations à cette église. Donner du courage à ceux qui en ont peu. Soutenir les faibles. Demeurer dans la joie. Prier sans cesse et être reconnaissant. Et ensuite, on y vient à ce verset, ce fameux verset du verset 16. Soyez toujours joyeux. Alors qu'il sait que ce n'est pas possible. L'église de Thessalonique est en proie au doute, à la persécution. Il y a de la souffrance. Soyez toujours joyeux. Comme si vous voulez les provoquer. Vu le contexte, la joie à laquelle sont invités les Thessaloniciens ne correspond pas à une émotion suite à une satisfaction, comme je l'ai dit, quand le dictionnaire l'exprime. Puisque cette jeune église est dans la souffrance. Elle a des difficultés. Et puis elle n'arrive pas à comprendre parce qu'elle ne connaît pas tout. Elle a besoin d'être enseignée. Au chapitre 3, versets 2 et 3, Paul dit « Nous envoyons Timothée pour vous affermir, afin que personne ne soit ébranlé au milieu de la fiction. Et je crois que c'est ça le but. Dans tout réconfort, dans tout ce que nous pouvons apporter à quelqu'un qui est dans la souffrance, dans la détresse, dans le deuil, ou dans l'échec, éviter, apporter un soutien pour ne pas être ébranlé d'autrefois. Paul connaît bien le risque pour ces jeunes chrétiens, celui de douter. On pourrait douter dans les promesses de Dieu quand il en donne tellement dans sa parole. Je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Tu traverses par le feu, par l'épreuve, la vallée de la mort, tous ces versets. On dit, mais voilà, il a dit qu'il serait là. Et il n'a pas promis d'éviter les difficultés, mais il a promis d'être avec nous. Et je crois que c'est cela que notre devoir, notre mission d'encouragement, savoir que le Seigneur est avec nous, il nous accompagne. Et j'admets que dans certaines circonstances, il est parfois difficile de réaliser que le Seigneur est toujours là. Je me souviens, il n'y a pas longtemps, j'ai eu quelqu'un qui se questionnait, qui disait à Dieu, mais où étais-tu quand j'ai tellement eu de difficultés? Où étais-tu quand j'ai souffert? Et Dieu de répondre, j'étais à la même place où j'étais quand on m'a crucifié mon fils. J'étais là pour encourager, pour fortifier. Je n'ai pas pu empêcher la crucifixion, mais j'étais là pour fortifier. Que ce soit cet exemple, encourageons. Si vous pensez que Dieu vous abandonne, Dieu n'est plus là, il est là, il veille. Et il attend le moment pour intervenir. Quelle est cette joie à laquelle Paul invite le croyant, les croyants de la jeune église? Et pour nous ce matin aussi un encouragement. Cette joie est liée, non à notre relation, à la situation extérieure, mais à notre relation personnelle avec Dieu. Ce n'est pas lié aux circonstances qui nous entourent, mais rester confiant et serein malgré l'adversité. Nous connaissons tous la parabole du fils prodigue. La joie surgit du père au moment où il retrouve son fils. Il était perdu. Et il va exhorter l'autre fils, le frère, à changer de regard et de voir que l'épreuve est terminée, le frère est revenu. Il a retrouvé cette communion avec son Père. Sur quoi est fondée là la joie du chrétien? Paul le rappelle au verset 8 du chapitre 5, l'espérance du salut. Il y a des chrétiens qui pensent que, oui, tout roule, ils n'ont jamais eu de problème, pas eu de difficultés dans la vie, le couple est encore ensemble. Les enfants marchent bien, tous engagés, et pensent que c'est parce qu'il était fidèle. Il n'a échappé à aucune épreuve de l'existence. Mais alors quelqu'un appelait cela de la naïveté, de la joie naïve, parce qu'il s'accroche sur quelque chose des faits et il pense que c'est grâce à lui. Non, aucune difficulté n'est épargnée, encore moins un chrétien. Le succès peut aussi nous donner ce sentiment de joie. Parce que, comme je fonctionne, ça marche bien. Dans Luc 10, au verset 17, les disciples revinrent de leur campagne d'évangélisation, dans la joie, tout heureux de constater que les démons leur sont soumis. Ils viennent vers le Seigneur faire leur rapport et ils disent, oui, on est tellement contents, on dit, même les démons nous sont soumis. Et ils sont soumis. Et Jésus leur répond, vous savez ce qu'il leur répond? C'est pas de cela qu'il faut vous réjouir. Réjouissez-vous de ce que les esprits vous sont soumis, oui. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Et on en vient à ce fil conducteur, de ne pas lâcher tout le reste. Ne compte pas. Ce qui compte, c'est que nos noms sont écrits, que Christ a promis de nous tenir la main malgré tout. On ne va pas jeter la pierre aux disciples de se réjouir parce qu'il y a des victoires sur les démons. Mais Jésus veut sans doute les mettre en garde contre un sentiment d'orgueil. Car c'est en mon nom qu'ils vous ont soumis, ces démons. Ce n'est pas à cause de vous. Et on connaît le danger de toute activité chrétienne, de serviteurs de Dieu qui sont tombés à cause du succès peut-être. Alors que savoir que nos noms sont écrits, ça nous reste humbles. Nous reconnaissons que Dieu est celui qui domine celui qui gère et qui a tout fait. Savoir que nos noms sont écrits dans les cieux devrait nous pousser à la reconnaissance envers celui qui nous a acquis ce droit, Jésus-Christ, son sacrifice sur la croix. C'est à cause de lui que nous devons nous réjouir, parce qu'il a tenu, il a accepté d'aller jusqu'au bout. Paul ne nie pas la réalité des épreuves, des persécutions, et ni la mort. Il est super bien placé pour le savoir, tout ce qu'il a souffert, tout ce qu'il a enduré. Quand on pense qu'il a une vie très difficile, malgré qu'il était dans la volonté de Dieu, il suivait, il était à l'écoute de Dieu. Pourtant, les épreuves ne lui ont pas été épargnées. Alors, je pense que pour nous, jamais nous ne devons dire « Dieu m'éprouve, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi tu m'abandonnes ?» Bon, c'est des questions qui sont pour le monde. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire au travers de cette difficulté? Et je suis sûr que cette semaine, il y en a plein qui se posent ces questions-là. Et nous devons prier justement pour que ceux qui sont interpellés, ces familles qui passent par le deuil, puissent se dire « Mais qu'est-ce qu'il n'a pas joué ?» Seigneur, en vue de quoi tu permets cela? Mais permets de me rapprocher de toi. L'apôtre Paul nous invite à regarder au-delà des circonstances qui nous accablent. Oser un dépassement des réalités. Quand les disciples sont venus vers Jésus se réjouir que les démons leur étaient soumis, alors Jésus leur dit, mais vous n'avez vu que cela, mais moi j'ai vu. Au-delà, ils voyaient Satan tomber du ciel comme un éclair. Les disciples voyaient ce qui se passait sur terre, mais Jésus voyait vraiment dans le ciel le combat qui se faisait et la victoire de l'ennemi, des prières des disciples. Être joyeux, en toutes circonstances, je préfère dire être serein, dans toutes circonstances, parce que joyeux, on l'exprime trop facilement. Être serein dans les difficultés, c'est l'espérance. Ne soyez pas affligés, lui dit l'apôtre Paul, comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Et je crois que c'est là le témoignage que nous avons à rendre. Le témoignage que nous avons à rendre lorsque, dans les difficultés, nous restons sereins, nous restons confiants. Si la joie à laquelle nous invite l'apôtre Paul est fondée sur notre espérance, de quelle espérance s'agit-il alors? Notre espérance est en Dieu, fondée sur l'œuvre de Christ, accomplir la croix. Être certain que Dieu agira, quoi qu'il arrive. Notre confiance en Dieu est mise à l'épreuve, c'est sûr. Mais lorsque nous passons de ce que Paul appelle des légères afflictions, au 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 17, nous pourrions lire ce que, comment l'apôtre Paul voit cela. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. C'est une discipline que nous devons avoir pour être capable de regarder au-delà des difficultés, regarder ce que le Seigneur nous promet en sa présence. Oserais-je prendre l'exemple de Jésus? Par sa confiance en Dieu, il est allé jusqu'au bout. Il a accepté de mourir sur la croix, car certain de la résurrection. Et cette victoire sur la mort atteste que nous avons raison de mettre notre confiance et notre espérance en Christ. Pour Paul, c'est la joie véritable, cette joie qui nous donne en toutes circonstances d'être serein, se savoir aimé et pardonné sans condition. En fait, si, il y a une condition pour réjouir le cœur de Dieu. J'aimerais que nous lisions le chapitre dans Jean, chapitre 15. Je lis un peu plus que ce qui est concerné, mais j'aime bien ce texte, dans Jean 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il y a donc un modèle d'église, de contact avec les chrétiens qui réjouit le cœur de Dieu. Et je crois que c'est à cette joie-là aussi que nous devons savoir que nous réjouissons le cœur de Dieu quand il nous voit serein, quand il nous voit ferme, accroché à ses promesses malgré la tempête. Comme l'amour, la joie se transmet. Mais il y en a qui ne seront jamais satisfaits, qui vont toujours ambitionner quelque chose de plus. Dans notre église, il y a une sœur qui est toujours positive. J'aime bien la visiter parce qu'elle est toujours souriante. Je ne connais pas de ce qu'elle me laisse percevoir. Toujours positive et dans la joie, elle est rayonnante, elle m'encourage. Alors quand je vais pour prier avec elle, mais c'est elle qui m'encourage plus. Et un jour, elle m'a donné le secret de sa joie apparente. Elle me disait, à mon mariage, et cette personne a plus de 80 ans, hein, à mon mariage, prédicateur, il m'a donné ce verset à mon mari et à moi, contentez-vous de ce que vous avez. Vous imaginez un verset d'un mariage? Est-ce qu'il voulait dire, ben, t'as une femme, contente-toi d'elle, ou bien de le contraire, je ne sais pas, mais contentez-vous de ce que vous avez. Je ne sais pas comment on peut interpréter cela. Et cette sœur m'a dit, mais ça nous a aidé toute notre vie. Et alors elle me citait les paroles du cantique. Compte les bienfaits de Dieu. Tu verras en adorant combien le nombre est grand et que les difficultés sont beaucoup moins nombreuses que tous les bienfaits que le Seigneur nous a donnés. Nous vivons dans un monde encombré de mauvaises nouvelles. Il nous appartient de changer notre regard et de voir au-delà. Il ne s'agit pas de nier la réalité. De toute cette souffrance, il y a des familles dans le deuil en ce moment. Être capable de regarder au loin Jésus qui veut nous faire traverser sans encombre, qui veut nous toujours à nouveau nous faire réfléchir peut-être, nous mettre devant nos responsabilités. Que faisons-nous de notre témoignage autour de nous? Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, dit le cantique. Car sa fidélité ne dépend pas des circonstances. Sa fidélité ne dépend pas des circonstances. Ne l'oublions jamais. Et si parfois nous avons des pourquoi en vertueux, disons-lui plutôt, en vue de quoi tu permets cela, Seigneur? Pourtant, c'est quand même les circonstances qui nous poussent à louer Dieu. Ou à oublier de le faire. Ou parfois ne pas pouvoir le faire. Ça aussi, il y a des circonstances qui nous empêche de le faire, on n'a pas la joie, on n'a pas envie de se réjouir. Impossible d'être toujours joyeux. Si nous n'arrivions pas à compter les bienfaits de Dieu dans les situations difficiles, mais c'est normal, on ne peut pas le faire. En nous demandant de nous réjouir en toutes circonstances, Paul ne suggère pas autre chose que d'enraciner notre confiance en celui qui nous a assuré au prix de sa vie, une sécurité éternelle. C'est ce qui nous permettra d'avoir cette gratitude silencieuse. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Tout le reste ne compte pas. Rendez grâce en toutes choses, ça ne veut pas dire en toutes circonstances, ça ne veut pas dire rendez grâce tout le temps. Il existe des situations pour lesquelles il est impossible de rendre grâce. Des épreuves, des accidents, des maladies, des deuils peuvent nous frapper. Nous ou nos proches, où il nous est difficile de dire merci. Car rendre grâce, c'est cela, hein, dire merci. Je ne pense pas que Paul demande de dire merci pour ce qui est pour nous une cause de souffrance. Le psaume et le livre de Job nous montrent des hommes engagés, s'adresser à Dieu avec les sentiments que nous éprouvons. Nous pouvons nous adresser avec Dieu, bien sûr, pour manifester notre reconnaissance, mais notre incompréhension aussi, mais notre colère aussi, on a le droit de le dire. Rendre grâce en toutes circonstances nécessite parfois du temps, un délai de maturation. Combien de psaumes nous décrivent David criant à Dieu parce qu'il ne comprend pas. Alors que j'essayais de comprendre comment concilier à être toujours joyeux, reconnaissant en toutes circonstances, alors qu'humainement c'est impossible, et ma femme m'a donné cette explication avec la parole de Dieu, alors que j'essayais de comprendre, elle me disait, mais dans un arbre, quand il est au repos, il a la sève, elle travaille quand même. Il y a les saisons qui doivent s'approcher. J'aime bien cette image, l'image de la vigne de Jean 15. L'invitation de Jésus à demeurer en lui pour porter du fruit qui réjouisse le cœur de Dieu. Mais pour cela, la taille est nécessaire. Quand il y a taille, tout le monde peut comprendre ça, si on coupe une branche, elle ne va plus produire du fruit, en tout cas tout de suite, ni des feuilles. Il y a blessure dans une taille, mais elle est nécessaire. Et Jésus le dit dans la parole de la vigne, il faut que ce soit émondé pour porter du fruit, encore plus de fruits. Ce qui est important, c'est que le sarment taillé soit toujours alimenté par la sève. Le Seigneur, en nous donnant cette image, a résolu pour moi le prier sans cesse. Et donne tout son sens à la parole de Jésus, demeurez en moi. C'est ce qui nous permettra d'être reconnaissants en toutes circonstances. Une blessure suite à une taille, pas de fruit, mais la sève continue. Et les saisons vont se préparer pour donner du fruit en son temps. Il n'y a que dans l'Apocalypse, dans la Nouvelle Jérusalem, quand la Nouvelle Terre, où les arbres produiront du fruit chaque mois, en toute saison. Mais cela, nous n'y sommes pas encore. Le prier sans cesse est plus une attitude de prière, où nous demeurons en communion constante avec notre Dieu, ce qui nous permet d'éviter le lâcher prise. Tout le contraire de celui qui veut faire rire avec un cœur triste. La joie du chrétien doit être un état d'esprit, indépendant des circonstances. Philippiens, au chapitre 4, le verset que nous avons lu, l'apôtre Paul dit ceci, « Réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous toujours, je le répète !» Et quand il dit cela, Paul est en prison. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, mais avec des actions de grâce. Ne pas oublier la reconnaissance. Alors si je comprends bien ce verset, oui, nous pouvons faire connaître nos besoins à Dieu. Oui, nous pouvons lui faire part de nos difficultés. Oui, nous pouvons dire à Dieu nos incompréhensions. Oui, nous pouvons crier notre colère quand la vie nous semble dure et injuste. Mais avec des actions de grâce. C'est-à-dire, ne pas oublier de remercier Dieu pour l'assurance du salut, que nos noms sont écrits dans les cieux, pour l'assurance que le Seigneur connaît chaque situation que vous traversez et qui est à vos côtés pour les affronter. J'aimerais en conclusion que nous disions Romains chapitre 8, versets 35 à 39. Écoutons ces versets.
Qui peut nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, le baptême ou bien l'angoisse? Ou encore la persécution, la faim, les privations, le danger, la mort? Comme le déclare l'Écriture, à cause de toi, nous sommes exposés à la mort tout le long du jour. On nous traite comme des moutons qu'on mène à la boucherie. Mais en tout cela, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus notre Seigneur.
Merci. Si comme l'apôtre Paul, nous avons cette assurance, alors nous pouvons nous réjouir être reconnaissant en toutes circonstances par ce que Christ a fait le plus important. Et pour cette nouvelle année, on peut encore faire des vœux. On est encore dans les temps. Alors je vous laisse ce verset de Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour le privilège de te connaître. Merci d'être enseigné par ta parole et d'être encouragé. Pardonne-nous toutes les fois que nous avons contesté ton plan, pensant que tu étais trompé lorsque nous sommes passés dans les difficultés. Mais Seigneur, nous te demandons vraiment pardon. Et aide-nous à regarder au-delà des circonstances, de te voir nous attendre avec cette place que nous a préparée. Donne-nous de nous réjouir que nos noms sont écrits dans les cieux et que nul ne nous ravira de ta main, avec cette certitude que tu feras plus et mieux que nous savons te le demander. Béni sois-tu, Père, pour cette Église, pour cette Assemblée. Veuille la bénir, l'encourager, la fortifier, et qu'elle puisse aussi regarder à toi, être encouragée, et un encouragement autour de ceux avec qui ils travaillent. Sois béni, Père, parce que tu es fidèle et tu nous aimes. Amen. Amen.